centimes d'euros les minutes. 32.30, France Inter au bout du fil.
Vous écoutez effectivement France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet.
Bonjour, aujourd'hui une histoire de la beauté, deuxième partie. Il n'y a plus de femmes laides, il n'y a plus que des femmes qui se négligent. Magazine Votre Beauté, 1937. D'histoire. La beauté et le regard que l'on porte sur elle n'ont jamais autant changé que pendant ces 100 dernières années. Parce qu'ils sont tributaires de l'air du temps, parce qu'ils reflètent nos angoisses et nos espoirs, les canons de la beauté tels qu'ils avaient été définis pendant des siècles ne pouvaient résister au traumatisme de la Première Guerre mondiale. C'est alors qu'apparaît le visage et le corps androgyne de la garçonne, la première des modes qui, pendant 100 ans, vont faire la une des magazines, la fortune de l'industrie des produits de beauté et des régimes minceurs, et grâce au cinéma et à la télévision, faire croire à toutes les femmes que chacune d'entre elles peut devenir une star ou une reine de beauté. France Inter, Denis Astagnaud, le 14 décembre 1997.
On termine par un conte de fées, mais oui, celui que vit depuis hier soir Sophie Thalmann. Cette jolie plante d'1m80 est la nouvelle Miss France. Elle a 21 ans et hier soir à Deauville, pour elle, c'était la consécration. Le reportage de Vanessa Decoureau.
Miss France et Miss Lorraine.
1m80, 21 ans, les yeux noisettes, Sophie Thalmann est la nouvelle ambassadrice de charme de la France.
Jusqu'à la fin, j'y ai pas cru, je sais pas, ça devait sortir sur mon visage, j'étais persuadé que ça serait pas moi.
Alain Thalmann, l'heureux papa, a encore du mal à y croire.
Très fier, très très fier. Elle a tout ce qu'il faut. Elle n'a pas que la beauté, elle a tout derrière. Elle est bien dans sa tête. Je souhaite à tous les pères d'avoir une fille comme j'ai, moi.
Georges Vigarello, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était le père de Miss France 1997, Sophie Thalmann, qui ne ressemble plus bien sûr aux beautés de la Renaissance ou du 19e siècle dont nous avons parlé hier avec vous. D'abord parce que on juge les Miss sur l'ensemble de leur corps et non plus seulement sur le visage et le buste, comme ce fut le cas pendant des siècles. Ensuite parce que la beauté n'est pas seulement réservée ou n'est plus seulement réservée à une élite. C'est tout le monde peut être beau ou belle. La beauté s'est démocratisée. C'est d'ailleurs le titre du dernier chapitre de votre livre, L'histoire de la beauté, Georges Vigarello.
Oui, et cette démocratisation, à vrai dire, elle a commencé auparavant, mais elle a commencé davantage dans le projet. Vous voyez, une société qui se démocratise, après la Révolution, c'est une société qui considère qu'un certain nombre d'avantages qui existaient auparavant pourraient, dans une certaine mesure, être partagés, être l'objet de travail, être l'objet d'amélioration. Et vous avez des textes qui, dans les années 1840, 1850, commencent à dire cela. Mais dans les faits, bien entendu, l'application ne suit pas. En revanche, après la Première Guerre mondiale, les textes sont suivis, si je puis dire, des faits. Mmh. Et il y a effectivement un public qui lit davantage de magazines, il y a un public qui achète davantage de produits et qui considère qu'au fond, il peut se rapprocher des canons valable à l'époque dont je viens de parler, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale.
Oui, parce que c'est à ce moment-là, au fond, que les critères de la beauté changent très vite. Dans le passé, les choses évoluent assez lentement. Là, brusquement, il y a le choc de la Première Guerre mondiale et l'apparition d'une femme très différente. On a l'impression qu'il y a des siècles qui séparent la femme de 1918 ou 19 de la femme de 1914. C'est par exemple la garçonne avec ses cheveux courts.
C'est une véritable rupture. Et c'est une rupture intéressante parce que cette fois, elle a atteint véritablement le profil, elle n'atteint pas seulement le visage ou les cheveux, vous voyez, elle atteint la façon de se présenter dans l'ensemble de son corps, avec une manière qui est beaucoup plus linéaire. D'ailleurs, il y a l'invention de ce mot, la ligne. Il faut qu'on retrouve ce mot né. Je veux dire qu'il n'existait pas, bien entendu, la ligne, on savait ce que c'était. Mais la ligne appliquée au profil corporel émerge pour la première fois dans ces années 20, 25-30. Et donc, il faut la ligne, c'est une ligne fluide, mais aussi, deuxième caractéristique qui me paraît extrêmement importante, c'est une ligne active. Il faut que le profil féminin soit un profil montrant qu'il se déplace avec une certaine gracilité, avec une certaine aisance, et ajoutons le mot, avec une certaine légèreté.
Vous dites, c'était une fleur, ça devient une tige. Effectivement,
exactement.
Les formes en S du 19e siècle, ça devient vraiment un I.
Voilà, les formes cambrées. La cambrure, c'était une allure esthétique.
C'est la religion du 19e.
C'est la religion du 19e. C'était une allure, bien entendu, esthétique, élégante, mais c'était une allure qui, en même temps, traduisait de la fragilité. Traduisait une certaine difficulté de marcher. Une sorte d'avancée un petit peu oblique, si vous voulez. Alors qu'au contraire, à la fois aérienne et oblique, si je peux dire, la cambrure. Alors qu'au contraire, la ligne fluide, c'est une ligne de l'activité. Et d'ailleurs, les textes commencent à dire, il faut que votre activité, il faut que votre aisance, il faut que votre manière de bouger apparaisse jusque dans vos traits.
Puis alors, les traits et les cheveux, ça c'est une évolution qui est même antérieure à la Renaissance. On n'a jamais vu une femme, à part peut-être Jeanne d'Arc, dans le passé, porter des cheveux courts comme Louise Brooks. Or le phénomène se généralise. Vous dites qu'en 1925, une femme sur trois a les cheveux coupés.
Oui,
à quoi ça correspond, ça? Est-ce que c'est la place des femmes, par exemple, dans la société pendant la guerre, le fait qu'elles se mettent au travail, etc.?
Vous savez, c'est très difficile de donner des causes précises, mais on peut quand même penser, sans, je crois, courir l'erreur trop grave, qu'il y a un rapprochement avec les caractéristiques de la domination, qui sont les caractéristiques masculines. Il y a un rapprochement avec les caractéristiques de la domination, qui sont les caractéristiques de l'activité, de la légèreté. Or, les cheveux, qui ne flottent plus, qui ne sont plus, c'est des pesants, qui n'ont plus cet espace volumineux, qui en quelque sorte donne une forme de lourdeur à la tête. Ces cheveux, qui sont...
C'était le corset de la tête, en fait.
C'était le corset de la tête, à un sens. C'est une sorte de couronne, vous voyez. Ces cheveux qui deviennent très courts, qui peuvent se coiffer en un instant, parce qu'il y a le problème du temps aussi. Il y a le temps gagné, qui peuvent se coiffer en un instant, caractérise quelque chose de culturellement, vous voyez, et de socialement totalement nouveau.
Autre révolution considérable, Georges Vigarello, parce que pendant des siècles, nous l'avons dit hier, nous l'avons rappelé hier, une belle femme, c'est une femme qui a la peau blanche, voilà qu'apparaît le bronzage. Alors à quoi ça correspond, ça?
Je pense que la raison majeure, c'est la montée du loisir. C'est le fait que les hommes et les femmes se donnent plus de temps pour se livrer à des activités qui leur plaît. Alors évidemment, c'est parce que le travail est distribué autrement et que, on voit bien, les congés payés dans les années 30 et que des possibilités de faire autre chose que le travail deviennent marquantes. Deuxième raison, le fait d'apparaître bronzé n'est plus une sorte de tare par rapport aux paysans, si vous voulez, au milieu rural.
Oui.
Et au contraire, c'est une façon pour l'homme et la femme des villes de montrer qu'elle sait disposer de son temps, qu'elle sait l'utiliser. Et alors, très curieusement, le bronzage se met à apparaître comme un signe de santé.
Oui.
Autrement dit, accumuler du soleil, voyez, accumuler du soleil sous votre peau, c'est accumuler de l'énergie, ce que nous ne dirions évidemment pas aujourd'hui.
C'est pas un hasard, d'ailleurs je crois qu'il a été inventé en 1920 à Biarritz par Marthe d'Avelli, hein, vous la citez, oui, qui est une chanteuse de l'opéra comique, un de ces très nombreux artistes auxquels on demande justement de promouvoir non seulement des modes, mais aussi des produits de beauté, comme dans cette archive de 1936.
Qui ne connaît Mademoiselle Renée de Villers, la célèbre artiste parisienne? Écoutez-la.
Quand on me demande le secret de mon teint frais et velouté, je réponds invariablement malathéine. Par son action bienfaisante, la crème malathéine est en effet la seule qui me réussisse vraiment. Et pourtant, que n'ai-je pas essayé?
D'autres femmes, n'en doutez pas, l'essayeront après vous, mademoiselle.
Femme, que vous êtes jolie, quand vous avez 16 printemps et que vos grands yeux innocents sur chaque chose s'extasient, toutes les roses vous envient et le lys lui-même est jaloux de la blancheur de votre cou. Femme, que vous êtes jolie.
Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la beauté, et Tina Rossi que l'on entend, jolie. Femme, que vous êtes jolie. Il parle quand même encore d'un coup blanc, hein, Georges Vigarello.
Oui, je crois que le texte de Tino Rossi, outre son côté un petit peu sucré, si vous voulez, c'est quand même un texte qui est archaïque par rapport à notre période. Il y a le signe d'une domination à l'égard de la femme, il y a le signe d'une dissymétrie, on parle de la femme comme si c'était une sorte d'être qui n'est fait que pour la beauté, qui n'est fait que pour le charme. Alors, heureusement que les féministes sont passées par là, et heureusement qu'elles nous ont appris totalement d'autres choses.
Alors avant Tino Rossi, on a entendu René de Villers, dont que tout le monde a oublié, de même d'ailleurs que le produit de beauté dont elle vantait les mérites dans la publicité de 1936. Des produits de beauté, le mot est nouveau d'ailleurs, et ça devient une industrie extra-néon florissante.
Ah, le mot est nouveau, il date de l'extrême fin du 19e, plutôt du début du 20e. Il est lié aussi à de nouvelles institutions, je pense par exemple aux instituts de beauté qui commencent à s'installer dans les années 10. Il est lié
les
aussi
esthéticiennes,
les esthéticiennes, ouais. Il est lié aussi aux manucures, pendant. Il est lié aussi au fait que il y a une sorte de volonté de diffuser sur un public relativement large, parce que ce public est réceptif, des produits qui ne se limitent pas aux fards, mais qui vont toucher à ce qu'on appelle le cosmétique, c'est-à-dire des produits qui touchent la peau en général. Vous voyez, il y a un intérêt.
C'est ça la différence entre le fard d'autrefois et le cosmétique produit d'aujourd'hui.
Oui, voilà, le cosmétique c'est un produit carrément d'entretien.
Ouais.
Et c'est un produit d'entretien qui s'étend sur l'ensemble de la peau. Je crois que ça aussi c'est extrêmement important. L'ensemble de l'enveloppe corporelle devient un objet sur lequel l'esthétique émet ses exigences.
Avec une pionnière, Elena Rubinstein.
Exactement, oui, tout à fait. C'est la première à créer de grands instituts de beauté. Je crois aussi que c'est la première qui a compris que des produits pouvaient être transnationaux. Vous voyez, elle a installé ses instituts à New York, à Londres, à Paris. Et je crois qu'elle a parfaitement compris le renouvellement de ce type d'objet et de ce type de projet.
Qui est une industrie avec des chiffres d'affaires absolument phénoménaux aujourd'hui.
Hein, qui se chiffre en milliards d'euros en France y compris.
Alors tout ça aussi grâce, il faut bien le dire, à des magazines féminins. Je ne sais pas s'il en existait au 19e, mais là, leur lectorat explose avec, dès l'entre-deux-guerres, un magazine important qui s'appelait Votre Beauté.
Oui.
Enfin, qui
existe encore. Ce qui existait au 19e siècle, ce sont des livres de mode. Et les livres de mode vous disent, au fond, quels sont les atours, pour employer le mot qui était utilisé, que vous devez porter. Quels sont les profils que vous devez présenter. Voilà ce que vous dit le livre de mode. De temps en temps, il vous donne quelques indications sur la propreté, les précautions à prendre pour telle ou telle démarche concernant l'esthétique. Mais en gros, il se limite uniquement à la mode. Or, que font les magazines du XXe siècle, et en particulier ceux de l'entre-deux-guerres? Je crois que c'est à partir des années 30 qu'explose un type de périodique qui touche un public extrêmement large. Vous savez, Votre Beauté, c'est très vite 100 000 personnes.
Oui.
Donc, que font-ils? Eh bien, ils vont conseiller la lectrice, parce que c'est encore les femmes uniquement qui sont concernées, ils vont conseiller la lectrice dans les démarches quotidiennes qu'elle doit avoir pour entretenir sa propre esthétique. Et également, nouveauté, c'est comment vous y prendre alors que vous n'avez pas le temps, alors que vous travaillez. Mmh. Autrement dit, on va donner un certain nombre de tactiques, on va donner un certain nombre de démarches à des femmes qui tente de s'entretenir alors que le quotidien est plus ou moins en contradiction avec les exigences de cet entretien.
Oui, mais on les pousse même, on les brutalise un peu, on leur dit mais si vous êtes moche, c'est de votre faute, etc. Il y a vraiment une morale de la beauté, d'ailleurs qui n'est pas très éloignée non plus, vous le rappelez, de l'exaltation de la beauté par des régimes totalitaires. Je crois que le magazine dont on parlait a d'ailleurs versé dans la collaboration, mais c'est vrai que de l'autre côté du Rhin, par exemple, les sculptures d'Arnaud Brecker, les films de Leni Riefenstahl, où la parole est presque absente, on se contente d'exalter, de mettre en valeur la beauté. Il y a un risque dans cette espèce de culte de la beauté, justement.
Absolument. Il s'est produit une double chose. Dans les pays que je qualifierais de démocratiques, ce qui s'est produit, c'est une référence très forte à une forme de psychologisation qui passe par la volonté. Autrement dit, on demande au public d'exercer une volonté à l'égard d'eux-mêmes, parce que on entre dans des systèmes qui sont plus concurrentiels que ceux qui existaient auparavant, parce qu'il y a l'espoir de sortir de sa propre situation, il y a quelque chose de visé qui est de l'ordre de la mobilité sociale, et cette mobilité ne peut être obtenue que si chacun applique sur lui-même une volonté très forte. Et puis bien sûr, il y a un deuxième volet qui est absolument dramatique, qui est celui des pays totalitaires, qui ont une vision, cette fois, différente, à savoir la beauté que nous vous proposons, c'est celle qui va conduire à l'amélioration d'une population, pour que cette population soit le signe de la force de notre nation. Et on entre cette fois dans une beauté qui, à mes yeux, est extrêmement différente parce que elle ne s'adresse plus à des individus. Elle s'adresse à des êtres qui sont quasiment abstraits, dont on attend d'eux qu'ils se fondent dans un collectif devenu totalement uniforme.
Alors, le cinéma, j'ai cité Leni Riefenstahl, a joué un rôle considérable, et il va continuer d'ailleurs après la guerre, à jouer un rôle essentiel dans l'évolution de l'idée que l'on se fait de la beauté. Écoutez cet archivina de 1946.
La technique de la beauté féminine a-t-elle fait des progrès?
Regardez les visages que l'on voit aujourd'hui au cinéma. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un réel progrès entre l'époque de l'année 1946 et l'époque, par exemple, de 1920?
Bien, donc,
voilà déjà une preuve indiscutable qu'il y a, d'une façon visible, un grand progrès dans la beauté.
Ce cinéma vous a été plus utile que nuisible.
Il a été surtout très utile pour développer et apporter aux femmes la preuve que toutes peuvent accéder à la beauté et être belles. Car je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de femmes laides à mon avis, il n'y a que des femmes qui s'ignorent, qui sont soit mal maquillées ou mal coiffées.
Toutes les femmes peuvent accéder à la beauté, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'était en 1946. C'est ça, au fond, le rôle du cinéma dans la démocratisation de la beauté, Georges Vigarello?
Je crois que cette phrase est absolument décisive, dans la mesure où, effectivement, le cinéma a eu un rôle fondamental dans l'effet de diffusion. Ça, c'est le premier point. Il a inventé des histoires qui ont plu. Et bien entendu, il a inventé aussi des êtres qui devait plaire. Donc des êtres qui, d'un côté, s'inspiraient des critères du temps, c'est-à-dire le plein air, le bronzage, la fluidité du corps, l'activité, etc. Mais d'un autre côté, il a poussé ses repères en fonction de qualités qui correspondaient à celles que pouvait restituer la pellicule. Je m'explique. La luminosité, par exemple. Vous voyez, les cheveux de Dietrich, de Marlène Dietrich, sont des cheveux qui sont toujours évaporés, qui sont toujours projetés avec de la lumière venant de l'arrière pour donner quelque chose d'encore plus doux, d'encore plus souple. Ça, c'est une invention du cinéma.
Bah, toujours dans la manière, cheveux, la blonde platine, Gina Arnaud, c'était en fait un procédé pour la filmer mieux.
Bien entendu, c'était pour rendre plus de luminosité à l'expression qu'elle pouvait avoir. Et du coup, cette découverte, entre guillemets, va être appliqué par le public. Et la phrase que vous évoquiez tout à l'heure, elle me paraît absolument fondamentale. Pourquoi? Parce que le cinéma vous dit en un certain sens, regardez, l'actrice, elle est effectivement sublime. Mais cette actrice, elle est conduite, elle est construite. Cette actrice, elle s'est faite. Et les magazines dont nous parlons détaillent la manière dont les actrices en question utilisent un certain nombre de recours pour apparaître beaucoup plus belle que la réalité de l'effet. Donc, ce qui apparaît très fortement, et je pense que ça c'est absolument central pour le XXe siècle, c'est que nous entrons dans des procédures d'artificialisation et dans des procédures de démocratisation qui sont totalement nouvelles.
Avec un vocabulaire nouveau aussi qui apparaît, hein, sex appeal par exemple, pour définir la beauté, sex appeal, alors on disait que c'était Marlène Dietrich qui avait du sex appeal, le glamour de Ava Gardner, c'est quoi le glamour?
Je crois que c'est à la fois le signe d'avoir des repères érotique, et en même temps, c'est le signe d'avoir des repères de tendresse, et enfin, troisièmement, c'est le signe d'avoir des repères de distanciation, plus ou moins de légèreté, voire d'amusement ou d'ironie. Vous
voyez. Alors ça, c'était pour Ava Gardner. Pour Bébé, le mot, c'était pchit, hein.
Oui, mais...
Ça a disparu, on a complètement oublié.
C'est pareil.
Brigitte Bardot, vous lui consacrez beaucoup de place, c'était vraiment le modèle, c'était la beauté des années 60.
Oui, je pense qu'incontestablement, Brigitte Bardot, en France en particulier, mais plus largement, a joué un rôle, à mon avis, tout à fait décisif dans les années 50-60. Je crois que elle a poursuivi ce profil de juvénilité, d'activité, mais elle a porté des choses beaucoup plus fortes, qui sont un érotisme beaucoup plus ouvert, beaucoup plus franc. Deuxièmement, elle apportait un mouvement qui jusque-là n'était pas. Brigitte Bardot, dans certains de ses films, est quelqu'un qui danse seul. C'est quelqu'un qui a une sorte de rythme intégré dans son propre corps, une sorte de musique incarnée. Et puis troisièmement, Brigitte Bardot est quelqu'un qui, pour la première fois, a un comportement que je qualifierais sexuellement masculin, tel que la tradition masculine le voulait.
Modèle aussi, dites-vous, de la femme libre, alors beaucoup plus en tout cas que celles qui sont prêtes à tout pour leur ressembler. Écoutez ce reportage du magazine Vécu de France Inter, un lifting en direct, le 17 mai 1980.
Ça va, madame?
Oui.
Vous ne sentez rien?
Oui.
Bien. L'opération se passe très très bien. Et maintenant, je décolle la joue. Alors, il est évident qu'il faut peut-être vous faire très attention parce que il y a des organes nobles qui sont en profondeur et pas loin, en particulier le nerf facial. Le nerf facial qui est responsable de la mimique, de l'expression des sentiments. Et allons-y, le plus loin possible. Avouez qu'il y a un beau morceau là de peau enlevée. Et maintenant, on suture.
Alors c'était une opération de chirurgie esthétique, hein, comme si on était en 1980. Il faut souffrir pour être belle, hein, c'est connu, mais alors là c'est assez impressionnant. Vous dites, c'est relativement récent la chirurgie esthétique, enfin ça date quand même de la Première Guerre mondiale, c'est
oui,
ça qui a...
Je crois qu'elle s'invente en fait avant la Première Guerre mondiale, mais très peu d'années avant. Les premières opérations, en particulier celle de rhinoplastie, apparaissent dans les années 5-10, plutôt les années 10. Et curieusement d'ailleurs, on les fait apparaître dans des traités d'éducation physique. Vous voyez, comme si l'éducation physique était faite aussi pour vous transformer chirurgicalement.
Oui, alors bon, elle lutte essentiellement contre... Alors c'était les blessés de la face, hein,
voilà,
qui avaient fait
oui,
faire des progrès à la chirurgie esthétique. Alors on lutte bien sûr contre les rides, on lutte également contre quelque chose dont vous dites qu'on le découvre, qui est la cellulite en 24, ça n'existait pas avant.
Ben, bien sûr que ça existait. Mais c'est là justement qu'une histoire de la beauté est intéressante. Parce qu'on voit que certains objets qui existaient depuis toujours commencent à être révélés parce que le regard devient différent. Parce que la nudité devient une nudité quotidienne. Parce que les questions posées sur la circonférence des cuisses, la circonférence de la taille, le calcul de cette circonférence, le chiffre de cette circonférence, sont des questions qui sont du XXe siècle. Mmh. Et donc du coup, évidemment, la façon de regarder est totalement différente.
Et puis alors évidemment, il y a le poids, hein, dont la perte devient une obsession. La femme du 19e pouvait être encore ronde, pas celle du 20e. C'est vraiment un élément, dites-vous, essentiel de la beauté féminine, le poids aujourd'hui, plus qu'avant.
Ah, bien plus qu'avant, ne serait-ce que parce qu'il est chiffré. Voyez, la femme du 19e est une femme qui doit être mince, même si elle peut avoir quelques rondeurs. Je dirais même qu'elle doit avoir quelques rondeurs. Mais n'oublions jamais, il faut quand même qu'elle soit mince. La taille est totalement étranglée. En revanche, l'immense nouveauté du XXe siècle, c'est l'exigence du calcul sur soi et du chiffre sur soi. La balance était totalement étrangère aux appartements, même encore des années 30. Elle est totalement présente des années 50-60.
Seule devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts.
Eh, hey, Maggie, ça fait quand même presque 5 kilos en 3 semaines d'amaigrissement.
Au revoir. Bravo,
Maggie.
Des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime.
On est très influencé par les magazines, par les pubs. Ce qu'on cherche, c'est un peu le rêve, c'est maigrir tout de suite. Alors qu'en vérité, c'est un effort quotidien qu'il faut faire.
Clémentine Sellarié, comédienne pour Slim Fast.
Moi, je représente une femme ronde, qui est gourmande, et qui, à travers un produit, un substitut de repas, a envie d'entraîner d'autres femmes rondes et gourmandes à se sentir plus légères et plus belles, un peu plus minces, un peu plus fines. Être ronde, enfin les rondeurs, la féminité, tout ça, pour moi c'est lié. Donc je veux dire, il ne s'agit pas d'être une salsifie. De toute façon, je ne pourrais jamais être une salsifie. Et j'ai aucune envie d'être une salsifie.
Et pourtant, c'est bien à cela que la publicité pousse certaines femmes,
oui,
bien
absolument,
souvent, jusqu'à l'anorexie, hein, dans certains cas. Ça aussi, c'est une nouveauté. C'est les effets, au fond, de ces modèles de femmes minces jusqu'à la maigreur et auxquelles on essaie de ressembler. Georges Vigarello.
Oui, modèles extrêmement répétés, modèles diffusés, modèles qui, par certains aspects, deviennent implacables. Mais je crois qu'il faut quand même jamais oublier que l'arrière-plan de cet ensemble de dispositifs, c'est celui qui consiste à faire apparaître la silhouette de la femme comme une silhouette active, comme une silhouette mobile, comme une silhouette susceptible de changer en quelque sorte, oui, d'activité, de se lancer dans de l'activité. Et donc, à l'arrière-plan, personnellement, je pense vraiment qu'il y a le problème de l'intégration de plus en plus évidente de la femme dans l'espace public et bien entendu le partage total des procédures de travail.
Et hier et aujourd'hui, Georges Vigarello, nous n'avons parlé que de la femme parce que la beauté jusqu'à ces dernières années c'était exclusivement celle de la femme. Or vous montrez bien qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des modèles de beauté masculine. Il y a David Beckham par exemple, le nouveau mâle. Métrosexuel, ça veut dire quoi? Parce que moi je suis un homme, mais franchement je vous avouerai que métrosexuel, je sais pas ce que c'est, peut-être que je le suis pas.
Non, ce que nous venons de dire à l'instant sur le problème de l'activité, nous introduit vraiment à ce type de question. À savoir, l'activité, la mobilité, la disponibilité à l'égard du travail est partagée par les hommes et les femmes. Et les qualités féminines ne sont plus du coup uniquement des qualités d'expression, des qualités de grâce ou des qualités d'esthétique. Les qualités féminines peuvent tout autant être des activités de force, des activités d'initiative, des activités d'activité forte, intense, etc. À partir du moment où ce n'est plus l'esthétique qui code la spécificité, entre guillemets, bien entendu, la spécificité féminine, cette esthétique peut tout autant appartenir à l'homme. Et il peut tout autant apparaître dans un système de publicité où il vante quelque chose qui est de l'ordre de la beauté. Et je crois, je dirais, si vous voulez, que la référence sexuelle n'est plus la référence esthétique, vous voyez. Ça, c'est absolument fondamental. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, les lignes de beauté commencent à être aussi les lignes masculines, les produits commencent à être partagés par les hommes, les soucis de minceur et autres sont tout autant partagés par les hommes. Alors, vous me posiez la question du métrosexuel. Vous savez, j'aurais du mal, personnellement, à répondre. Je crois que c'est un mot qui est complètement inventé, mais qui marque la rupture. Il veut dire que les hommes sont devenus des êtres où la beauté fait partie de ce qu'ils sont sans qu'ils aient perdu les qualités qui sont autres.
C'est la dernière des évolutions que vous mentionnez dans votre livre.
Absolument.
Justement, mais au cours duquel, dans ces deux émissions aussi, on a vu au fond que la beauté, les critères de la beauté étaient très éphémères. À quoi ressemblera un homme, un bel homme ou une belle femme dans 100 ans?
C'est une question totalement décisive à laquelle il est le plus difficile de répondre. Ce que l'on peut imaginer, moi je dirais, je répondrai en deux temps, si vous voulez. Premier temps, je pense que l'idéal de minceur n'est pas prêt de disparaître. Parce que cet idéal de minceur est vraiment le signe d'une mobilité dans laquelle notre modernité est sans doute engagée pour un temps encore. Mais deuxième versant de la réponse, personnellement je suis historien et j'ai le plus grand mal à projeter de l'avenir. Mmh. Et donc je pense que dans la mesure justement où l'histoire nous montre une succession de ruptures, je crois que nous ne sommes pas prêts à, si nous vivons encore un certain temps, à assister à de nouvelles ruptures.
Merci Georges Lugarello. Pour en savoir plus, donc, je recommande la lecture de votre livre, Une histoire de la beauté, qui vient de sortir aux éditions du Seuil. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Mathias Saléon, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser, Sandra Escamez, une réalisation de Anne Kobilac. Demain et après-demain, dans 2000 ans d'histoire, Napoléon et les femmes. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald, Musique Express.
Merci Patrice Jalinet, c'est parti.
Amis de la musique. Musique. Express. I need a pound of fat bag drum. Right about now.